Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Chers popophiles, popovores et popophages de tout poil, nous voici réunis pour une nouvelle émission de Pop en stock, nouvelle mouture transatlantique, puisque cette fois-ci, nous avons j'ai l'immense plaisir de recevoir un grand ami d'il y a une très longue date, Pierre-Olivier Ferry, qui nous parle de Bruxelles. Salut Pierre-Olivier.
Bonjour.
Je suis très, très content pour plusieurs raisons. Pierre-Olivier m'a introduit, quand nous étions très, très jeunes, à toute une série d'univers dont tu étais déjà familier, Pierre-Olivier. Je rappelle que c'est toi, entre autres, qui m'a fait découvrir, qui m'a fait partager ta grande passion pour Philippe K. Dick, ta grande passion pour les mangas, dont le magnifique Gunn, donc Little Angel. Et puis, tu m'as introduit aussi à un univers que tu connaissais très bien, puisque je pense que tu étais un des tout premiers, mais vraiment des tout premiers, c'est l'univers des jeux vidéo. Je pense que tu as découvert ça à un âge très tendre, mais surtout à un très tendre âge aussi du médium lui-même, non? Je pense que tu as assisté à l'émergence des vraiment les tout premiers jeux vidéo comme on les entend. Et puis par ailleurs, tu es devenu vraiment un homme de théâtre, ce qui nous avait unis aussi quand on était jeunes. Et toi, tu as continué, ce dont je t'envie quand même aussi, une partie de moi aurait bien aimé continuer cette belle aventure. Tu es dramaturge, metteur en scène, acteur et prof de théâtre, donc à Bruxelles, grande ville pop aussi, devant l'éternel et grand cinévore et grand amateur de science-fiction, etc. Et donc aujourd'hui, c'est grâce au jeu du calmar, donc le phénomène absolument mondial, planétaire, qui arrive autant à Bruxelles qu'ici à Montréal, qui nous a réunis et qui nous réunit aussi avec un de nos collaborateurs réguliers, Régis Pierre Fieux, qui est aussi français, mais qui est aussi exilé ou en tout cas expatrié comme Pierre-Olivier, mais ici chez nous à Montréal et qui vient de finir sa thèse consacrée à la nouvelle décadence, donc une lecture de Maurice Dantec. On reste aussi aux lisières de la science-fiction, Philippe Moret et Michel Houellebecq, qui a aussi donné dans la science-fiction de manière assez intéressante et qui est aussi impliqué dans la scène musicale hardcore. Donc, bonjour Régis aussi, content de t'avoir à nouveau. Et grand amateur de cinéma et culture sud-coréenne, donc ça tombe très bien pour analyser ce phénomène mondial qui continue à la fois à séduire, fasciner, interpeller, interroger plus de 111 millions de personnes désormais de manière très mathématique décomptées par Netflix à travers le monde, donc plus de 90 pays. C'est un numéro un dans des cultures totalement disparates, ce qui est assez fascinant en soi, et c'est un des aspects qui va sans doute nous retenir. Sans plus de dilation, on entre de plein pied donc dans l'univers très particulier de Squid Game. Alors tout d'abord, peut-être dire que le premier sentiment, comme souvent dans la culture pop contemporaine, c'est à la fois un dépaysement, mais aussi une sorte de reconnaissance. Il y a un effet de reconnaissance d'une certaine partie du récit de cet univers de fiction. On reconnaît depuis il y a quelques semaines quand c'est sorti, une sorte de filiation avec une série de films dont sans doute peut-être le premier référent inévitable est celui de Battle Royale. Et je pense que justement, Régis, tu voulais nous en parler un peu.
Oui, en fait, si on devait vraiment se concentrer sur la genèse du Battle Royale, on pourrait même remonter avant. Si on voulait faire un peu d'humour, on pourrait dire que déjà chez les Romains, avec les combats gladiateurs, on était dans le Battle Royale, quelque part. Et tout à l'heure, tu parlais des chiffres très impressionnants de Netflix, de diffusion, de spectateurs. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'il y a quelque chose de primal là-dedans, vraiment qui remonte aux origines les plus antiques les combats de gladiateurs, effectivement. Alors, au XVIIIe siècle, on sait aussi qu'en Angleterre, il y avait des combats de boxe qui se déroulaient, hein, dans la rue. Bare knuckles, ça s'appelait, donc vraiment à main nue. Et puis, c'était une espèce de forme ancestrale de Battle Royale aussi. Ça existait aux États-Unis, d'ailleurs, tristement célèbre, les espèces de Battle Royale organisées entre esclaves par leurs propres maîtres. C'est connu aux États-Unis, ça. Mais tu as raison, ce qui a rendu le Battle Royale célèbre, c'est le film japonais.
C'est le réalisateur culte d'une série de films de Yakuza qui a influencé toutes ces générations de nouveaux réalisateurs japonais. Kinji Fukasaku, donc un vieux de la vieille, vraiment.
Mais le magnifique Kitano joue dedans. Oui, c'est une espèce de prof, coach... très sympathique, qui met des balles dans la tête quand les élèves parlent au mauvais moment.
De manière toujours aussi inexpressive. Et à partir donc du roman culte de Kushun Takami, du même titre, de 1999, et qui avait déjà été adapté aussi de manière assez culte en manga, donc entre 2000 et 2005.
C'est vrai que ce film a vraiment popularisé le nom, surtout de ces espèces de jeux... malsains durant lesquels les gens s'entretuent et un seul doit survivre à la fin pour empocher une récompense. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'origine, dans Battle Royale, dans le film japonais, il y a un lien entre l'existence même du Battle Royale et la crise qui traverse cette société japonaise. Donc, dans le film, c'était une question de surpopulation et de compétition, déjà. Compétition entre les étudiants, puisque le jeu est organisé, parce qu'il y a en fait beaucoup trop de monde sur l'île, dans une espèce de dystopie où le Japon est encore plus surpeuplé, les étudiants...
Oui, c'est une uchronie, le roman est une uchronie, hein. Où le Japon a gagné la guerre, donc on est encore dans l'équivalent du Troisième Reich, puisqu'on oublie souvent, mais c'était l'équivalent fasciste, l'équivalent nippon du fascisme européen, et donc ce monde a continué après la victoire, donc c'est un peu le côté un peu Philippe K. Dick du maître du haut château, etc.
Oui. Mais c'était la logique, si je me souviens bien, du fait que ben, comme il y avait trop de compétition entre les écoles, il y avait à chaque fois, chaque année, une école qui était sélectionnée pour que les élèves s'entretuent et que ça réduise un peu la population et la compétition. Je crois que c'était ça, les prémices du film, moi dans mon souvenir, c'était ça aussi. Et ça fait écho à Squid Game, puisque finalement, l'existence de The Battle Royale repose aussi sur des fondements sociaux, la brutalité du système social sud-coréen, on va en reparler. Et c'est une tendance qu'on croise énormément dans les films asiatiques. Ça, c'est donc le Battle Royale au Japon, et puis là, Squid Game en Corée. Et puis l'autre versant qui est fascinant, c'est le versant jeu vidéo, dont on parlait tout à l'heure, parce que tu disais, Pierre-Olivier est un spécialiste, donc on va pouvoir en discuter. Mais c'est la même question qu'on peut se poser. Est-ce que le succès de Squid Game est dû au succès déjà des Battle Royale qui pullulent le marché du jeu vidéo, que ce soit Fortnite, Call of Duty, Warzone on ne peut pas tous les citer, là, mais il y en a tellement, Rock Company, je ne sais quoi encore, il y a des tonnes de Battle Royale sur le marché du jeu vidéo. Est-ce que Squid Game aurait autant marché s'il n'y avait pas une masse de gens, de jeunes notamment, qui se précipitaient sur les Battle Royale et qui ont été attirés par ce médium-là du point de vue de la fiction? Je me pose la question. Peut-être qu'il aurait eu moins de succès.
Eh bien, justement, je me suis un peu demandé sur les points communs qu'il peut y avoir entre Squid Game et le Battle Royale. Je veux dire, à part le fait que c'est le principe des jeux mortels, et je ne trouve pas vraiment... Pour l'instant, voilà, parce qu'il me semble que les Battle Royale, pour l'instant en tout cas, qui existent en jeux vidéo, sont vraiment purement des jeux d'action. Alors, il y a à côté, oui, le point commun, ça pourrait être l'adrénaline, parce qu'on joue contre des adversaires humains qui dirigent les autres personnages du jeu. Quoi. C'est un jeu en ligne où c'est un jeu d'action, on affronte d'autres humains, et il ne peut y avoir qu'un seul survivant. Et forcément, les réactions d'un joueur humain sont beaucoup plus vivantes, par définition, beaucoup plus imprévisibles qu'un bot programmé par l'ordinateur. Et, du coup, et puis, on sait qu'il y a des personnes derrière, du coup, il y a cette émotion. Et dans Squid Game, il y a aussi forcément des émotions fortes, mais le rapport est lointain. Dans Squid Game, il y a vraiment... Il y a une narration, il y a des personnages, des enjeux sociaux, il y a un mordant, etc. Et il me semble que dans les Battle Royale actuels que je connais, c'est pas l'angle. Il y a aussi peut-être le phénomène notamment très fort sur Fortnite, que c'est aussi, ça devient un lieu de rencontre entre joueurs. Et ils sont les gens qui se connectent, qui sont souvent d'ailleurs des adolescents, voire des pré-adolescents. Finalement, ça devient le terrain de skate un peu, ou c'est le lieu où dans la place où on va se retrouver, on va discuter, etc. Et pas seulement jouer. Autant un jeu vidéo peut, dans certaines créations, développer vraiment des personnages, des enjeux narratifs, des histoires, bon, avec cette dimension d'interaction qu'on a, bien sûr, au propre jeu vidéo. Autant, il me semble que dans le Battle Royale, et je trouve qu'on ne retrouve pas vraiment dans le jeu vidéo ce que le type d'enjeu et de sensation, d'émotion que j'ai ressenti à cette série Squid Game.
Non, je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, parce que quand on fait le rapprochement, il y a une certaine filiation dans le sens que l'auteur de Squid Game a lui-même reconnu l'influence du manga Battle Royale, donc ça aurait été à travers le manga qu'il aurait connu, de même qu'il reconnaît l'importance, par exemple, d'une œuvre dystopique comme The Long Walk de Stephen King, qui est aussi un peu une œuvre culte de ce type d'enjeu. C'est un marathon où les jeunes adolescents des États-Unis doivent s'impliquer dans un marathon de milliers de personnes qui sont et dont les perdants sont froidement abattus par une sorte de police qui vient en arrière, comme dans les courses, comme dans les grands tours, etc. Mais au lieu d'être là pour aider les gens, c'est là pour achever ceux qui finissent. Donc ça, c'est deux sources qu'il a reconnues. Il n'a pas reconnu Hunger Games, donc c'est intéressant. Je me suis un peu penché sur la question dans les articles publiés sur Pop en Stock. Mais ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas techniquement un jeu. Squid Game, en théorie, le jeu du calmar comme tel, le jeu lui-même, à part l'épreuve concrète qui s'appelle le jeu du calmar et le jeu traditionnel, mais le jeu qui est présenté dans le film n'est pas un jeu de Battle Royale techniquement, puisqu'il ne s'agit pas de tuer soi-même les autres nécessairement, il s'agit plutôt de passer un nombre d'épreuves. Alors, il se trouve qu'il y a des épreuves qui impliquent l'élimination immédiate, donc de provoquer l'élimination soi-même de quelqu'un, mais il y a des jeux, dont le premier jeu 1, 2, 3 Soleil, où le fait de gagner soi-même n'implique pas nécessairement qu'on est en train de tuer quelqu'un. C'est juste que soi-même, on passe l'épreuve et les autres, chacun se démerde. Mais peu à peu, il y a des épreuves où on est de plus en plus confronté à ce que le fait de gagner soi implique la mort de l'autre. Mais en général, la manière dont la violence fonctionne n'est pas celle du combat de gladiateurs comme tel, qui est certes très importante dans toute cette histoire de l'affiliation pour Battle Royale, etc. Mais dans Squid Game, ce qui est curieux, c'est qu'on part d'un autre principe qui est celui de comme le outsourcing ou l'extériorisation de la violence. Ce n'est pas nécessairement les joueurs qui doivent abattre de leurs propres mains les autres, c'est un service d'exécutant qui est là tout le temps, donc les célèbres personnages avec leur jogging rouge, qui, eux, se chargent d'abattre les perdants, dans le sens qu'ils ont perdu l'épreuve. Je pense que c'est ça qui est aussi très particulier, c'est qu'on n'est pas, comme dans Hunger Games, on était plus proche de Battle Royale dans ce sens-là, on n'est pas dans des gens qui sont des Amazones ou qui sont des guerriers, et il n'y a que la fin, dans le dernier jeu, donc l'épreuve du calmar comme tel, qu'il y a une vraie violence gladiatoriale qui... Et en fait, elle n'est pas non plus présupposée par le jeu, dans le sens qu'ils ne sont pas obligés de s'entretuer. Et ce qui est intéressant, c'est que rendu là, ils s'entretuent pour des raisons qui ont à voir avec la logique des personnages. Et il y a d'ailleurs un renversement très intéressant, on pourra en parler tantôt dans le geste final du héros. Mais ce qui est très, très, très intéressant, c'est que la perversité du jeu, c'est que ce n'est pas un jeu où les gens doivent se tuer nécessairement. C'est un jeu où, en théorie, d'ailleurs, ce n'est pas non plus dit qu'il y a un seul gagnant. Parce que techniquement, oui, ce jeu aurait pu être gagné par plusieurs personnes, éventuellement.
C'est ce que semblent clairement croire les personnages, sauf au dernier jeu. Il y a beaucoup question de se dire on va se partager la somme, on va gagner ensemble. Et c'est à la fin qu'ils s'aperçoivent qu'il ne peut y avoir qu'un seul.
La cagnotte qui plane sur eux, la tirelire, elle est là pour dire combien chacun gagnera à partir de maintenant. La cagnotte, elle est de combien par rapport à chacun s'il devait se partager l'ensemble du truc. Donc, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on sent l'affiliation et en même temps, il y a quelque chose de différent et de plus pervers finalement. Parce que, premièrement, on n'est pas dans une dystopie comme dans Battle Royale ou dans Hunger Games, c'est-à-dire on n'est pas dans une société uchronique, on n'est pas dans une société du futur, on n'est pas dans un état policier totalitaire, etc. Au fond, on est à Séoul, Iketnouk, maintenant, ici et maintenant, et des gens, des laissés pour compte, des gens endettés, etc., etc., on leur propose ce truc-là, et ils doivent accepter, parce que finalement, ils peuvent, si la majorité d'entre eux se met d'accord, ils peuvent abandonner le jeu quand ils veulent. Et donc, je trouve que c'est tous ces paliers-là qui ont rendu la formule intéressante, je trouve, non ?
En fait, mon point était moins sur la filiation des ressemblances, des mécanismes de narration et tout ça, que plus sur le public, en fait.
Oui.
Je sais qu'il y a quelques articles qui sont sortis là-dessus, sur l'âge des spectateurs, mais il y a un nombre d'adolescents qui est très impressionnant. Et en fait, ma question principale, c'était plutôt, est-ce que la série a tant marché grâce au succès des Battle Royale dans les jeux vidéo ? Là, on avait un Battle Royale qui, effectivement, a été d'autant plus intéressant et attirant qu'il proposait des points de vue tout à fait neufs du point de vue de l'élimination, comme tu le disais, des participants, du point de vue du déroulement du jeu. Il y a plusieurs épreuves, c'est vrai, alors que dans un Battle Royale classique, il y a un match, en fait, et puis à la fin, il y a un seul survivant. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait que il y a un médium qui, en fait, est un jeu et il ne s'entretue pas directement. En fait, c'est un jeu. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut revenir dessus. Squid Game, c'est un mélange entre le jeu télévisé, vraiment, et le Battle Royale qu'on connaît depuis l'Antiquité. Donc, cette idée qu'il y a le jeu télévisé perverti en mode question pour un champion, quelque part.
Le jeu de Kitano, parce que vous savez qu'il y avait ce jeu culte dans la...
Oui,
dans
avec
la
le château, eh oui.
Oui, oui, exact.
Oui, tu as raison, c'est vrai, c'est une forme de Battle Royale, ça aussi, c'est vrai, tu as raison. C'est ce jeu grandeur nature où les participants doivent... je crois qu'ils doivent aller tout en haut du château, et puis en fait, il y a plein d'épreuves qui les attendent.
Oui, c'était très délirant. Moi, je sais qu'en Espagne, ça se présentait comme une sorte de... Je sais pas si on a fait l'intégralité en Espagne où on prenait juste les meilleurs bouts, et ça devenait un truc un peu entre grotesque, slapstick, et un peu inquiétant quand même. C'était très curieux.
Dans Squid Game, il y a une gradation de l'implication dans le meurtre. Je dirais qu'au départ, même au départ, ils ne savent même pas qu'ils risquent de mourir.
Oui.
Ils disent, on va jouer à 1-2-3 soleils. Bon, OK. C'est quand même un peu, il y a des trucs inquiétants. Bon, forcément, les soldats masqués avec toute cette espèce de look très graphique et complètement impossible à, voilà, très pantin, très impersonnel. Et puis cette poupée géante, bon, ça met mal à l'aise, mais vraiment, c'est la surprise, c'est même le traumatisme violent et total pour tout le monde quand ils commencent à tirer sur ceux qui bougent. Ils ne savaient pas. Et ça, c'est la première épreuve. Et encore, même s'il y a une violence absolue et traumatisante, j'imagine, hein, si on est à leur place, personne ne tue personne. Et même le fait de gagner n'entraîne pas la mort des perdants, parce qu'on pourrait, théoriquement, ils pourraient tous gagner. Si tout le monde faisait le truc parfaitement, ils gagneraient tous. Donc, si je gagne, enfin, si je me mets à la place d'un participant, si je gagne, ça peut ne nuire à personne. Et puis, il y a une gradation. Parce qu'il y a d'autres jeux où ça va de plus en plus vers je gagne, tu meurs.
Oui, et d'ailleurs, il y a un aspect très intéressant juste après 1-2-3 soleil, c'est qu'ils reviennent traumatisés. Et puis, on leur dit, bon, ben voilà, maintenant, la gagnotte, elle est de temps par personne. C'est-à-dire, il y a un côté complètement pervers, c'est-à-dire, OK, vous êtes traumatisés parce qu'il y en a 200 et quelques qui sont morts. Et ça, on ne s'y attendait pas en tant que spectateur à que 200 personnages disparaissent comme ça dans un massacre hallucinant. Mais tout à coup, c'est bon, bah, chacun peut gagner 200 et quelques fois plus que tantôt. Et en plus, on vous dit, bah, là, vous pouvez partir. Et là, ça devient très intéressant parce qu'il y a ce célèbre élection et qu'on commence à voir ceux qui disent, ouais, mais au fond, moi, je préfère rester ici parce que ma vie dehors, c'est de la merde et je ne veux pas rentrer. Et puis ceux qui disent, non, non, mais c'est horrible, il faut quitter cet endroit. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Et c'est un bon tournant, c'est un bon twist, un bon tournant du scénario parce que là, on comprend que ça va devenir plus pervers. Et ce qui est très pervers à la relecture, c'est que si le personnage qui fait basculer l'élection, c'est précisément le vieillard, donc l'orchestrateur du jeu, et que c'est lui qui préfère, plutôt que de les laisser là, mijoter, etc., lui, il préfère les renvoyer et dire « Non, non, je ne veux que ceux qui vont revenir décider à entrer de plein pied dans le jeu. » Donc, c'est très vrai.
Et d'ailleurs, moi, quand j'ai regardé pour la première fois, bon, évidemment, en ignorant totalement que c'était ce vieux monsieur l'instigateur de tout.
Oui, bien sûr.
Et même comme ça, au niveau scénaristique, je me suis dit, là, forcément, je m'y attendais, il ne reste plus qu'un vote, il va forcément voter pour continuer, puisqu'il faut bien que ce soit une série sur des jeux de la mort. Et alors, j'étais vraiment cueilli quand il a fait basculer sur le non, et que tout le monde est rentré chez soi.
C'est super.
Et là, c'est vraiment intéressant, quoi. Peut-être en sachant qui c'est, le monsieur, et qu'en sachant qu'il aime le jeu, il aime se remettre dans l'ambiance du jeu. Donc, le suspense aussi, peut-être qu'il est même, il y a bien sûr cette dimension de défi, de vouloir pousser le truc à son maximum de sens, de non-sens plutôt, mais que les gens le fassent volontairement. Mais il y a peut-être cette dimension qui voulait peut-être jouer, il voulait peut-être se faire peur. Du genre, là, je prends le risque que mon truc tombe par terre et que personne ne revienne.
Mais pour moi, c'est une scène qui fait miroir avec la dernière scène de l'épisode où il est sur son lit de mort, là.
Oui.
Et il défie une dernière fois le personnage principal. Il lui dit, bah, s'il y a quelqu'un qui vient aider le gars en bas de la rue, bah, il n'y a pas de problème, je vais te dire la vérité. À mon avis, cette scène, c'est un miroir total. C'est-à-dire qu'en appuyant sur le bouton non, il veut encore une fois se reprouver que l'humanité est dégueulasse et que une partie des gens qui vont quitter la salle, eh ben, ils vont retrouver une société de merde et ils vont revenir. Donc, à mon avis, c'est encore une fois, c'est très nihiliste et très pervers de sa part. Dans ces deux scènes, de savoir que en fait ils vont revenir ou de savoir que quelqu'un ne va pas aider la personne, même si dans la dernière scène il se fait contredire.
On ne sait pas, j'ai envie de dire, s'il sait ou pas. Soit il sait, il est sûr, mais si c'est un être humain, il me semble que la série reste assez, assez réelle comme ça. Et du coup, on pourrait imaginer aussi bien, et c'est ça que j'aime dans les fictions, c'est quand il y a une part irréductible des personnages qui leur appartient et qu'on ne peut qu'interpréter. Et on peut imaginer aussi qu'il n'est pas sûr. Qu'il se dit tel que je connais l'humanité, ils vont revenir, mais je prends quand même un risque. Et que peut-être il se fait peur. Et que ça fait partie du côté ludique pour lui.
Oui, je suis d'accord avec ça.
Oui, et démiurge, l'aspect démiurge.
On n'est pas dans sa tête. Les deux sont possibles.
Ouais.
On reparle de ce monsieur, et c'est quand même assez. Ça vaut le coup de revoir une deuxième fois la série quand on sait bon. Mais c'est assez génial de revoir la série. On croit se souvenir, mais en fait, on voit énormément de détails quand on sait. Et qui sont très intéressants, notamment sur l'attitude de ce vieux monsieur. On s'aperçoit à quel point il est intelligent, rusé, comment il pense aux tout petits détails, comment il contrôle même la moindre de ses expressions, même quand apparemment personne ne le voit. Ben, il y a énormément de détails qu'on comprend autrement quand on revoit.
C'est un grandissime acteur, c'est un vieux de la vieille, littéralement, ouais. Et c'est un grandissime acteur. Et il y a un aspect tout à fait fascinant aussi, dans cet aspect irréductible que tu évoques, Pierre-Olivier, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas non plus jusqu'à quel point il est vraiment en train de perdre la tête, parce qu'on sent qu'il y a le côté Alzheimer, etc. Et des fois, on ne sait pas. Ben, il y a les moments où il joue, évidemment, comme dans la célèbre scène, et qu'on aura à revenir dessus sur le jeu de billes. Et là, il joue sa folie, ou sa maladie sénile, mais en même temps, il y a d'autres moments où on peut se demander si tout est parfaitement calibré, ou si par ailleurs, oui, ce personnage est en train de mourir et il est en train de perdre un peu la tête. Et ça, c'est très intéressant aussi.
Et c'est très fort, c'est ouais. Et on parlait de succès, et parmi les indices qu'on peut donner, parce qu'à mon avis, on ne peut pas analyser de manière fermée et définitive les raisons d'un succès. Un des indices de ce succès, oui, c'est que...
Le personnage, tu parles du vieillard, et je pense que c'est le traitement des personnages, oui. Le succès de la série aussi repose sur...
Oui, qu'il y a quelque chose de vrai, et qu'il y a quelque chose d'irréductible, comme ça, comme les gens réels. Et qu'il y a des choses...
Cette réalité est d'ailleurs infiniment développée à travers des personnages qu'on croise rarement dans le cinéma coréen. Je pense notamment au personnage de l'immigrant. Il fallait faire... J'avais dit avec ma blonde, j'ai dit qu'il fallait le faire pour trouver un Pakistanais qui parle coréen. Déjà, c'est très, très fort. Et c'est très rare d'avoir des immigrants dans un film coréen. Et ensuite, la deuxième chose qu'ils ont réussi à traiter avec brio, je trouve, c'est celle qui a réussi, la réfugiée nord-coréenne. Donc, on a deux dimensions sociales qui sont propres à la Corée du Sud et qui sont très intéressantes, je trouve. Et ça rend la chose très réelle encore plus que d'habitude. Parce que quand on regarde un film sud-coréen, généralement, c'est entre Coréens. Il y a des références dans certains films à la Corée du Nord, mais un immigrant, c'est vraiment la première fois que je vois ça dans une fiction sud-coréenne. Et la façon dont il est traité et la façon dont il finit, ça, je trouve que c'était vraiment admirablement bien fait.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs un des moments les plus tragiques de la série.
Oh là là, c'est très fort.
C'est très fort et c'est un point d'inflexion, effectivement, par rapport à l'autre personnage donc, de la série qui est l'ami d'enfance avec lequel la première scène s'ouvre, avec la première évocation du jeu de Calmar par le narrateur, Cho Sang-woo, qui incarne aussi une série de valeurs coréennes. Il me semble que c'est le typique, un peu comme les salarymen japonais, c'est-à-dire le personnage qui a tout bien fait pour réussir et qui, malgré tout, a failli. Et je pense que ça a aussi quelque chose à voir sur les idéaux de la société coréenne qui sont assez interrogés et mis en question par la série, parce qu'il devient le personnage le plus haïssable quelque part dans la série, dans un certain sens, en tout cas parmi les participants. C'est celui qui perd le plus son humanité, et justement en trahissant ce personnage qui était le plus généreux de tous, personnage pakistanais.
Cette scène des billes, d'ailleurs, entre ces deux personnages, mais il y a tous les autres duos, cette scène de billes, c'est magnifique. Et je me dis, en prenant texto les mêmes dialogues, ça peut faire du magnifique théâtre aussi.
Oui.
Vraiment intense et crédible, et waouh, avec des enjeux dramatiques, mais extrêmes comme ça, et plausibles. Alors, justement, on parlait des jeux. Le Battle Royale, ses déclinaisons, le degré de, entre guillemets, innocence des participants dans le fait de dans la mort des autres ou pas. Et là, dans le jeu de billes, on franchit encore un stade. C'était extrêmement pervers dans la manière dont c'est amené par les organisateurs. On avait, ils commencent par demander, choisissez-vous un partenaire.
Oui.
Vous entendez, tout le monde comprend, ça va être mon allié dans le game.
Oui, oui. Et on cherche la personne qui peut le plus nous aider, oui, c'est ça.
Voilà, et nous, si, mais est-ce que toi, tu me choisirais, tu vois, on se dit dans notre vie, ça nous renvoie, ben, on va prendre la personne avec qui on se sent complètement en confiance, qu'on aime, qu'on a envie d'aider, qui nous aidera, etc. Puis leur annonce, juste avant de jouer, ben, maintenant, vous vous opposez, les duos. Avec la personne que vous aimez, en qui vous avez confiance, vous vous opposez. Et là, du coup, on se retrouve avec Songwoo et Ali. Ali, donc les immigrés pakistanais, qui sont très bons amis, qui se font confiance, là, qui vont devoir, il y en a pour un seul survivant parmi les deux. Et là, la façon dont tu disais, oui, c'est très dramatique et c'est terrible, la manière dont tu dis, il le trahit, mais non seulement ça, mais c'est même pas seulement qu'il le trompe en lui faisant croire, parce qu'il a perdu le jeu, donc sans nous, mais comment il va faire pour finalement survivre et que donc ça soit l'autre qui meurt ? En jouant sur le fait que c'est quelqu'un de bien, et au nom de ses valeurs, au nom de vraies, enfin de valeurs quoi, au nom de la confiance, il lui dit même, écoute, voilà, tu as gagné, si tu veux, on en reste là et je meurs. Mais moi, j'ai un plan. On n'est pas sûr, mais il y a une chance pour qu'on survive tous les deux. Mais pour que tu acceptes ça, je sais que je te demande beaucoup, il faut que tu me fasses confiance. Donc, il joue sur la confiance, sur le courage, sur l'amitié. On est entre gens bien. Et c'est parce que c'est un mec bien et que l'autre le sait. Enfin, c'est extraordinairement pervers.
Et c'est d'ailleurs, chacune des scènes de cette épreuve est une scène où se joue la dernière humanité de beaucoup de participants. C'est des scènes où la majorité d'entre eux, d'ailleurs, vont sacrifier leur propre vie, quitte à être beaucoup plus humain, à en sortir plus humain. Je pense à la jeune fille qui est avec la Nord-Coréenne qui se sacrifie. Bon, on peut enlever de côté aussi. Le gangster parce que c'est des gangsters, donc, mais ils réussissent pas tous, c'est vrai, parce que je repense au personnage principal qui manipule le vieillard en se disant qu'il a Alzheimer, mais à la fin il a des regrets quand même, on sent qu'il pleure, il a des regrets, tout ça, et il y a vraiment que Sang-woo et Ali où là il y a vraiment une chute d'humanité totale et d'ailleurs Sang-woo reproduit ce qu'il a fait de son vivant, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a triché, qui a fraudé durant son travail, et en fait il fait la même chose, il fraude quelque part. Les billes qu'il récupère, c'est l'argent qu'il a fraudé durant sa vie.
Oui, c'est les subprimes, c'est la crise des subprimes, c'est clair qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais justement, la scène avec le héros, elle est fascinante à plusieurs niveaux, parce qu'il y a un premier niveau où on assiste à la dégradation du héros, et on ne pensait pas, parce que c'est un anti-héros, au début on s'entend, personnage endetté, un peu d'ailleurs. Il a notre sympathie par son énergie, comme beaucoup de personnages de loser dans les films, un peu plus comédie finalement. La façon dont il est traité, il y a un côté un peu à la...
Picaresque un peu. Même,
ouais, picaresque un peu à la Jack Nicholson, etc.
Il a beaucoup d'énergie, c'est vrai que... Oui.
Et il est en même temps comme plein d'entrain et tout ça. Donc, on s'identifie à lui, mais on sent bien que c'est un personnage. Il est plutôt poltron, il n'est pas très courageux.
Encore une fois, on revient à ce truc de réalité des humaines. En fait, on ne peut enfermer aucun personnage, ou peut-être quasiment aucun, sous des étiquettes. Ils échappent aussi, et ils se montrent aussi très courageux, quoi.
Oui,
ils échappent à leur définition comme les humains réels.
Oui, et dans cette scène, on ne s'attend pas qu'il aille jusqu'à tromper le vieillard, parce qu'en tant que spectateur, on s'est quand même identifié à lui. Et il y a un moment un peu dur comme ça, de se dire « même lui ». Mais en fait, le truc complètement fou, c'est que pour lui, contrairement à son ami d'enfance, pour lui, c'est ça, toucher le fond pour remonter. C'est-à-dire que c'est en faisant ça qu'à partir de ce moment-là, il va devenir vraiment beaucoup plus altruiste pour tout le restant de la série. Donc là, c'est l'inversion où il passe d'être un anti-héros à être un héros. Et en même temps, ce qui est fou, quand on sait que le vieillard est l'organisateur, ce qui devient fou, c'est que le jeu, il est extrêmement pervers de la part du vieillard, parce que non seulement il est totalement conscient que l'autre est en train d'essayer de le rouler, donc il veut le pousser jusqu'à la dégradation totale de renoncer à son humanité. Et là, il devient une figure vraiment satanique, c'est-à-dire de tentateur. Il est là pour dire, bon, je vais te montrer jusqu'où tu es capable d'aller.
C'est un peu ce qu'il fait globalement à l'échelle des jeux. Oui, il le fait avec cet homme en particulier. Oui.
Et en même temps, il y a tout cette symbolique. Bon, il y a une fan theory que c'est son père, parce qu'à plusieurs, il y a des indices quand il dit que son fils, il a un fils qui lui ressemble, etc. Quand il dit que la maison de son enfance, qu'ils sont en train de retracer dans le qu'ils ont reconstruit justement dans un décor très théâtral pour abonder dans ton sens, Pierre-Olivier. Dans ce décor-là, il dit « Je me rappelle dans mon enfance » et le héros dit « Moi aussi, je me rappelle, j'ai grandi dans un endroit comme ça. » Donc, il y a plusieurs indices sur la filiation, en tout cas une filiation symbolique. Donc, quelque part, il est en train de se chercher une sorte de substitut. Il est en train de le préparer pour être le gagnant des jeux et pour peut-être prendre sa place. Et donc, ce qui est assez fou, c'est que il y a vraiment deux niveaux de lecture de cette scène. Quand on sait qui il est vraiment et quand on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on a vraiment l'impression que c'est un vieillard qui se sacrifie et qu'on est dans le sacrifice. Et après, il y a le renversement de savoir que ce n'était pas un sacrifice. Mais en plus, quand on sait que c'est l'organisateur, il y a le côté complètement pervers de dire « Mais pourquoi il veut aller jusqu'au bout de pousser l'autre à le tromper, etc. » Donc, j'ai trouvé que il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans cette salle.
Ça arrache le cœur quand même, ça déchire. Quand on voit ce monsieur, il est touchant. Puis ça, c'est pervers, parce que quand on sait après que c'est un jeu. Mais quand il fait « j'avais dit père
oui. »
et voit que l'autre, mais même ça brise le cœur de l'autre qui veut survivre et qui dit « je suis vraiment quand même, je ne vais pas lui mentir. » Et puis il lui ment et ça arrache le cœur, je trouve, franchement. Et le retournement, le truc, quand tout d'un coup, son petit œil devient pétillant au vieux, ça a quel sens, en fait, de profiter de la mémoire défaillante d'un vieux monsieur? Et bam, tout d'un coup, on est, et ça accueille le personnage, mais nous aussi. Et alors, je voulais juste rebondir sur... tu parlais de, bah oui, à ce moment-là, on perd un peu le héros, quoi. On se dit, mais putain, comment il agit, quoi. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, c'est vraiment pas confortable pour nous spectateurs, parce qu'au fond, est-ce qu'on perd? C'est-à-dire, si on se dit, demande vraiment, si j'étais à sa place, ne pas mentir à ce monsieur, ne pas profiter du fait qu'il a oublié s'il a dit père ou un père, ça veut dire je meurs.
Oui, bien sûr.
Je meurs et j'ai des proches, j'ai joué le jeu, il ne joue même pas tellement pour lui, c'est pour sauver sa famille, sa mère, etc. Et alors que le monsieur, il est en fin de vie, enfin, à chaque fois, on pourrait vraiment tomber. On se dit, mais. C'est une chose de juger les gens derrière notre écran Netflix, machin, mais si on va dans le jeu, on se dit, je vais crever dans 2 minutes. Il y a un mec qui va me mettre une balle dans la tête. Est-ce que je mens à ce vieux monsieur? Et, putain, je pense que c'est difficile de savoir ce qu'on ferait si on n'est pas dans le truc, quoi.
C'est la grande réussite du scénario.
Très dur.
Ouais, c'est la grande réussite du scénario, je trouve, que ces dilemmes-là aient leur vrai poids. C'est-à-dire que ce n'est pas des dilemmes manichéens, ce n'est pas des dilemmes simples. C'est vraiment des dilemmes au sens tragique où il n'y a pas d'issue heureuse. C'est ça le sens étymologique du dilemme tragique. Et il n'y a pas d'issue heureuse dans aucun des deux sens. Et en même temps, les personnages doivent vivre dans ce truc terrible. Très existentialiste, d'ailleurs. Ça rappelle beaucoup le théâtre existentialiste. Et tu as raison de dire que cette scène-là, ça pourrait être presque du Camus ou du Sartre dans un certain sens.
Pour rebondir sur ce parallèle avec les autres Battle Royale, il y en a plein. Il y en a plein dans je veux dire, la fiction. Et c'est vrai que Suite Fukasaku, notamment, il a aussi ce côté réel, impitoyable, même un petit peu quand même un peu cartoon, un peu méchant, forcé. Squid Game est peut-être... Il a ce côté ironique, méchant, mais il est peut-être encore plus réel, j'ai envie de dire. Par contre, pour moi, c'est beaucoup plus réel au sens, genre, on ne triche pas avec la réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est rarement ce qu'on a envie que ce soit. Et pour moi, là, il y a une vraie différence avec les Hunger Games, où finalement, ça se passe exactement comme le lecteur cible voudrait que ça arrive.
Oui, qui est héroïque, épique, où il y a un
côté christianisme. Le personnage auquel je m'identifie devient la grande héroïne.
On est dans une différence fondamentale entre le cinéma américain qui, effectivement, comme dit Antonio, est messianique, et il y a toujours une portée morale issue de leur arrière-fond protestant, et puis les Coréens qui sont dans un cinéma très social. Quand je pense à tous les thrillers sud-coréens de qualité, Memories of Murder, J'ai rencontré le diable, tout ça, c'est toujours des thrillers où le flic qui traque le tueur en série. Même si le tueur en série est une merde infâme, le flic se retrouve à devenir gangréné par le chaos et le mal autour de lui. Et donc, c'est jamais des personnages qui sont héroïques, jamais dans le cinéma sud-coréen.
Oui, mais je dirais même dans Hunger Games, mais là, je vais plus m'inspirer de ce que dit King. Stephen King a parlé de ça. Il a parlé du succès des Hunger Games et j'ai oublié le titre, là, c'est très connu, hein, les gentils vampires romantiques, là, Twilight. Et Stephen King, il dit, bah, lui est américain, mais lui, par contre, aussi, je trouve qu'il a ce côté réel, genre, il ne triche pas, il déroule le récit dans ce qui peut arriver de plausible une fois qu'on accepte les prémices. Et pas forcément du tout ce qu'on pourrait souhaiter qu'il arrive, parce que la réalité, elle s'en fout, quoi. Et alors qu'il dit justement, ce qui se passe dans ces romans-là, c'est pas la réalité qui s'en fout, c'est ce qu'on aimerait qu'il se passe, et c'est un mensonge. C'est-à-dire que ça se passe pas comme ça, en réalité. Ça se passe pas comme... Ça peut arriver, coup de chance, mais c'est pas la règle, ça se passe pas comme on souhaiterait que ça arrive. Voilà. Et là, je trouve que Squid Game, il se démarque vraiment de ce point de vue-là, j'ai relu récemment ce que tu as écrit aussi sur ton site Pop en Stock sur ce qui se passe avec la potentielle intrigue amoureuse qui va mal finir avec la magnifique aussi personnage, je trouve. Et justement, ben voilà, on aimerait que ça se passe comme ça. C'est vrai, ça serait beau mais c'était peu plausible, peu probable. Et j'ai l'impression que c'est même pas forcément par misanthropie ou cynisme du créateur de la série. C'est juste que le jeu, il peut y avoir qu'un survivant à la fin. Et donc, bah, il y avait toutes les probabilités que ça se passe pas bien. On nous confronte, on nous met la réalité dans la face, quoi.
Il y a une exception, je suis d'accord avec toi, mais j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce que j'arrive au dernier épisode, où je trouve que cette fois-ci, on est d'un seul coup, on a titubé et on est retombé dans le cinéma hollywoodien. Je pense pas que dans la réalité, un père, après tout ce qu'il a traversé, abandonnerait de nouveau sa fille pour aller venger je ne sais quoi et tu retourner veux dire affronter les gens du jeu. Quoi.
Le dernier tournant, oui. Ça, c'est vrai que ça reste...
À la toute fin.
J'ai eu du mal, moi, personnellement, avec cette idée-là.
Ouais. On pourra en discuter comme ouverture de ce que pourrait être une saison 2, précisément un peu vers la fin de la discussion. Par contre, il y a un truc aussi qui arrive à la fin, mais pas à la toute fin que tu viens d'évoquer, c'est le pari final. Et dans le pari final, ce qui est intéressant, c'est que la série, elle refuse le nihilisme. Parce que, justement, oui. Le pari final, c'est le dernier pari du tentateur. Il-Nam lui dit, bah, écoute, de toute façon, on n'est pas pire. Quelque part, c'est la justification, c'est-à-dire, c'est pas pire ce qu'on a fait, nous, que ce que la société fait en général. Regarde ce sans-abri, il va mourir sous la neige, personne ne va l'aider et on va assister à sa mort. Et c'est vraiment le pari de Sade contre Rousseau ou de Rousseau contre Hobbes, c'est que, est-ce que finalement, l'être humain, il est... foncièrement mauvais, c'est la vieille question. Et le pari de la série, c'est que quand même, non, à la fin, c'est Jung Yoo-hoon qui a raison, c'est le héros qui a raison, et le homeless est sauvé. Et je trouve que ce n'est pas un moralisme hollywoodien nécessairement ce moment-là. Je trouve que c'est intéressant que la série, malgré son aspect extrêmement sombre, et ce qu'elle a dit sur l'être humain et la société humaine, mais finalement, le fait de se dire non, ce n'est pas non plus aussi simple que ce que veut Oh Il-Nam, tout le monde n'est pas une pourriture, tout n'est pas dégueulasse.
J'ai un contre-argument à ça sur cette scène-là. Oui. Je vous allez me dire ce que vous en pensez, mais quand effectivement le vieillard lui dit bon, bah, si quelqu'un vient le sauver, je te raconterai la vérité. Moi, dès ce moment-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il attend pour aller le faire lui-même ?
Oui, ça oui. Ça, oui.
Et en fait, il n'y a aucune règle dans le jeu du vieillard qui l'empêche d'aller sauver lui-même le clochard. Mais il reste spectateur et il attend, comme si lui-même, il voulait avoir raison extérieure au propre jeu. Et donc, je trouve que là, il y a quelque chose de très malsain aussi dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'y aller lui-même.
Je ne sais pas si ça s'élève à un niveau d'une idée générale sur l'humanité ou si c'est le choix de ce personnage à ce moment-là qui, effectivement, fait un choix qui n'est pas génial moralement. C'est encore une fois le côté irréductible des personnages, on ne sait pas comment ils vont réagir, parce que c'est telle personne, pas telle autre. C'est un peu ce que j'ai envie de te répondre concernant la fin. Je me dis, oui, je n'ai pas forcément compris son choix de ne pas prendre l'avion, ça m'a même déçu. Même. Je dis, ah, il va enfin retrouver sa fille, les bras chargés de cadeaux, et être. Voilà, et puis non. Mais après tout, je me dis, ben, voilà, ça, peut-être que tout simplement, ça appartient à cette personne de faire ça à ce moment-là, et même si je ne comprends pas pourquoi. C'est la façon dont c'est raconté, c'est filmé et joué et interprété. J'ai l'impression, et c'est ça que j'adore, c'est rare dans les fictions, d'avoir affaire pas vraiment à des personnages, mais plus à des personnes. Et les personnes, des fois, on ne comprend pas.
Et je voulais revenir sur cette scène, justement, de si quelqu'un vient aider le sans-abri. Je repense à une question que nous a posée un internaute là, sur la symbolique des épreuves, la symbolique des jeux, tout ça, chaque épreuve. Et j'étais en train de me dire, c'est vrai que tu as raison, c'est un parti pris du personnage principal de voir si quelqu'un d'autre que lui, en fait, effectivement, est capable de le faire. Je viens juste de me dire que cette scène, elle me faisait vraiment penser au mythe de Job, vous savez, avec Dieu et le diable qui, d'extérieur, si des gens vont aider Job, je ne sais quoi, et puis ils regardent, en fait, ils attendent de voir si ça se
passe. C'est une figure de tentateur au Ilnam. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, ils sont dans une position, tous les deux, démiurgique. Et c'est une position où, justement, ils observent, et un peu, d'une manière un peu gnostique, comme le mauvais démiurge et la figure de ce qui serait un bon dieu, quelque part, bienveillant en tout cas. Donc, un démiurge malveillant, qui est l'idée des gnostiques, que reprend Sade, d'ailleurs, parce que Sade ne le reprend pas nécessairement dans ces termes-là, mais chez Sade, il y a cette idée que la création est foncièrement mauvaise, et que donc l'homme aussi est mauvais, etc., etc. Alors que là, je trouve que c'était aussi intéressant de prendre le pari, parce que rendu là, on aurait pu rester dans le nihilisme, ça aurait été très radical et tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu ce que la série nous a porté. Oui. Finalement, cette sorte de lance pour la bonté quand même possible et la possibilité de l'altruisme et la possibilité de la solidarité, bah, c'était quand même... Je n'ai pas trouvé que c'était carrément un truc happy end américain qui tout à coup...
Deus ex machina, c'est une fin ouverte.
Tout se règle.
C'est une fin complètement ouverte.
Ouais. Non, le côté du fait qu'ils veuillent se venger des grands méchants, c'est plutôt ça.
Oui, non, ça oui, le truc du tournant de l'avion, c'est vrai qu'on sent que là, c'était vraiment le côté, bon, comment on finit ce truc. Mais, surtout, ouais. Est-ce qu'on le finit pour que ce soit fini pour ever, ou est-ce qu'on ouvre sur une...
On ouvre sur une saison 2 possible. Ah, on voit bien qu'il y a cet impératif. En même temps, je trouve de manière interne, c'est très bien amené, mais de manière presque au niveau de l'énergie, presque organique, qu'on sent que la pression monte et que le mec commence à vraiment en avoir marre. On sent que la colère monte quand il voit le recruteur dans le métro, que ça va repartir pour un tour. On sent le seum, là, on voit presque la jauge, là, ça va rendre en rouge. Et le type s'énerve et on sent qu'il a pris de la bouteille avec ces épreuves extrêmes qu'il a traversées. Et que, putain, non, quoi, juste non. Et ça, je trouve qu'on le sent vraiment. Donc, à la fois, il y a cette contrainte commerciale, et c'est vrai que ça fait un peu, on va ouvrir sur une saison 2 possible, les gars. Il paraît que c'est pas gagné, que le réalisateur n'est pas convaincu de la faire. Ça m'étonnerait, mais bon. Mais en même temps, voilà, on comprend, il y a ce côté commercial. En même temps, je trouve de manière interne, organique, je dirais. On sent cette colère monter, cette révolte et cette rage même. Putain, je vais vous éclater la gueule, les mecs, maintenant. On le sent, non, à la fin.
Et c'est vrai que de l'autre manière, si c'était... Parce que c'est un peu binaire quand même. S'il monte dans l'avion, ça aurait été vraiment une fin à la film des années 70, complètement démoralisatrice. Les jeux continuent, tout se passe de la même manière. Et le personnage est finalement totalement égoïste.
Ah, d'ailleurs, j'adore la petite touche parano totale de... la voix au téléphone d'un type venu de nulle part qui est en train de dire « Tu ferais bien de monter gentiment dans ton avion. » Et là, on est vraiment sur le big data, la parano
des data
personnels. Ils savent absolument tout.
Mais ça, c'est la touche finale. Parce que je me dis,
permanence.
Même s'il hésitait encore, le fait d'avoir un gars qui l'appelle et qui le traque en permanence, il va se dire « Ok, là, c'est pas possible. »
C'est vrai, rien de faire le contraire de ce que ce mec dit. Je pense que c'est impossible de faire ce qu'il dit. Quoi. Si on se respecte, on fait le contraire.
Ouais. C'est très Rage Against the Machine. Ça aurait été une fin tout à fait, une fin sonore très, très, très adaptée à ça. Il
passe un peu de perso comme tu l'as décrit au début, tu vois, loser, même pas courageux et tout. À la fin, c'est presque Patrick McGowan dans le prisonnier. Quoi.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est vrai que...
Le doigt d'honneur incarné.
Oui, oui. Non, c'est vrai. C'est une question que Lloyd Sherry me posait l'autre fois dans l'émission sur... C'est plus que la CF sur ça. Il disait, bon, quelles seraient les possibilités de la deuxième saison? C'est clair qu'il y a une qui est un peu messianique, qui est le retour donc, du héros qui va détruire le système, comme... Hunger Games, Katniss, qui détruit tout le système des jeux. Et en même temps, moi, je me dis, dans la logique de Squid Games, moi, je tuerais Gung Ho dans le premier épisode.
C'est-à-dire exactement.
Dans cette logique-là, c'est clairement, il arrive, il se
prend
dans la gueule.
À la première épreuve, il se prend une balle dans la tête parce qu'il est en retard.
Exact, parce que dans la logique de la série, telle qu'on l'a vu évoluer, il y a cet aspect qui, évidemment, je pense aussi, est quelque chose de très intéressant de la série, c'est qu'il va rarement là où l'horizon d'attente l'attend. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe rarement ce qu'on pense qu'il va arriver. Et ça, c'est bien réussi. C'est la vieille leçon. Ouais, c'est la vieille leçon de l'époque, mais c'est la vraie vie aussi, effectivement. Et c'est vrai que ça fait du bien en tant que spectateur qu'on ne nous prenne pas pour des cons pour une fois. Et que,
ah oui, tout à fait. Oui.
Effectivement.
Pendant longtemps, on peut croire que ça va être très misanthrope et nihiliste. Et ça me rappelle la sensation que j'ai eue, je pense, le temps, au moins des deux premiers épisodes. N'étant pas encore très attaché au personnage, etc., je voyais ça un peu de haut, presque ouais. comme les VIP qui regardent tout ça. Ouais. Et je me disais, on dirait que c'est un peu une série basée sur la jouissance, finalement, de voir des gens tomber comme des mouches en se disant c'est qu'une série, c'est ludique. Ouais. Et je trouvais que ça avait un côté un peu déshumanisé, qui me rappelait un peu l'époque actuelle, genre on sait que c'est pas vrai, c'est ludique. Et je trouvais ça un peu inhumain. Et je n'étais pas sûr d'aimer, même si je voyais qu'il y avait des qualités, ne serait-ce que plastique dans la réalisation, vous voyez, la maîtrise, l'esthétique, etc. Je trouve que plus ça va, plus ça contredit ce sentiment. J'ai commencé à trouver qu'il y avait réellement des personnages qui ont des enjeux dont on ne se fout pas. Et oui, qu'on voit que le créateur lui-même ne se fout pas de l'humain et des personnages qui vivent ça. Et que ça se voit de plus en plus à plein de détails. Et qu'à la fin, la révolte du personnage va aussi dans ce sens. Quoi.
Oui, et c'était bien aussi le fait que finalement, contrairement à beaucoup de séries, on n'est pas dans le backstory tout le temps. C'est une chose que notre ami Fred, on en parlait l'autre jour avec un pote, et lui, il appréciait ça justement, le fait qu'on n'est pas dans quelque chose de récursif, où on nous présente toute la vie des gens, etc. etc. Mm-hmm. En fait, on entre dans le tas de l'histoire, et puis peu à peu, de manière très... austère et très succincte, on découvre et on devine un peu les motivations de pourquoi ils sont là les uns et les autres, etc. Et ça marche beaucoup parce qu'en fait, on commence à s'attacher aux gens au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus rares comme survivants. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est que finalement, au début, on a vraiment un peu la perception qu'on pourrait avoir quand tu arrives dans un truc comme ça où tout le monde t'est étranger. Et puis, petit à petit, juste le fait d'avoir passé les mêmes épreuves, ça crée une sorte de solidarité étrange. Pas toujours solidaire, d'ailleurs, puisque ça crée aussi des camps et des rivalités, des choses comme ça. Mais le fait que les personnages se dévoilent progressivement, j'ai trouvé ça très fort. Et certains d'entre eux ne se dévoilent que dans la mort, comme on l'a vu tantôt avec le jeu des billes, et où ils prennent vraiment leur vraie dimension au moment où ils meurent. Le fait aussi que tout ce qu'on aurait pu penser comme intrigue hollywoodienne, le policier infiltré, alors dans un modèle hollywoodien, évidemment, il aurait... continuer son enquête et tout, le fait qu'il se prenne une balle dans la gueule aussi.
Alors, on ne sait pas s'il est mort, attention.
Toutefois, par rapport à la première saison, c'est quand même le truc de, bon, non, il n'y aura pas de policier infiltré qui va sauver.
Qui gagne tout.
Exact. Donc, ça aussi, c'était un peu particulier parce que bon, il y avait un petit côté James Bond à un moment donné. On est un peu dans l'antre du super-vilain et on est un peu dans cet imaginaire-là. Et on veut quand même qu'il se sauve parce qu'on est quand même aussi nourri au cinéma hollywoodien et qu'on aime ça aussi. Mais finalement, quand il meurt, on trouve que c'est bien aussi dans le sens pour
et par son propre frère, encore une fois, c'est très biblique, là, on revient sur le symbole, mais son frère, qui est un ancien gagnant du jeu, tout ça, c'est tellement tordu.
C'était le but de l'infiltration du policier, qui voulait aller sauver son frère s'il y avait encore un espoir, et il le retrouve à la tête du machin. Ouais. Encore une fois, il y a des petites ambiances, le prisonnier, je trouve. Hein.
Oui. Et le fait que le frère lui propose, encore une fois, en tant que tentateur, il lui dit « non, viens », dans le sens que il lui offre donc de se sauver en devenant lui-même complice. Et donc, il y a cette autre dimension, on a un petit peu évoqué, la dimension des VIPs. Effectivement, une des différences avec Battle Royale et avec Hunger Games, c'est que ceci est un spectacle pour le divertissement d'une sorte de boys club pervers, de multimilliardaires. Évidemment, ça rejoint beaucoup toute une vague contemporaine de l'horreur, donc l'horreur sociale, où justement des films sud-coréens se sont aussi illustré comme parasite, mais beaucoup de films et de fictions contemporaines où les riches sont vraiment des monstres, littéralement. On est dans le côté 1%, le 1% de Occupy Wall Street. Et là, on a vraiment quelque chose de très, très pervers qui nous renvoie évidemment aux libertins du marquis de Sade et à toute cette tradition féodale de souffrir de la jouissance des faibles, des pauvres, des démunis, etc., etc. Alors, il y a un côté un peu caricatural qui a été un peu critiqué par rapport aux personnages occidentaux qui sont présentés un peu de cette manière-là. Mais en même temps, ce qui était intéressant, j'ai trouvé, au-delà de la caricature, c'est évidemment la mise en abîme du voyeurisme du spectateur, parce que tout à coup, on dit « Ok, vous êtes en train de voir ça, vous êtes en train d'aimer ça. » Et là, on voit c'est qui aime ça et c'est qui est en train de voir ça. Et donc, et là,
ça nous renvoie direct à nous derrière notre écran en train de regarder la série, évidemment.
Exact. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. Ce n'était pas totalement appuyé. Peut-être même que l'aspect caricatural était là pour que ça ne devienne pas totalement malaisant, mais en tout cas la scène de mise en abîme où eux ils sont en train de voir un écran et nous on est en train de voir l'écran, eux regarder l'écran, là c'était quand même quelque chose.
C'est de dire... Bah moi je me suis senti coupable parce que depuis le début de la série je portais un masque de cochon en or. Non mais blague à part, j'ai vu les remarques sur Reddit, ça venait beaucoup d'Américains qui étaient choqués parce qu'ils disaient bah oui bah ça y est, ils ont mis que des Américains très riches qui regardent les jeux. Alors déjà il n'y avait pas que les Américains, à un moment on entend une voix. Je crois qu'on entend quelqu'un qui a un accent français ou italien.
Oui, je pense qu'il y a un accent de français. Ouais, je pense.
Bon, l'idée, c'est international.
International, c'est ça. Et surtout, on apprend que ce n'est pas le seul pays où ça se passe.
Oui.
Il y a des jeux partout, en fait. Mais c'est juste que
voilà. C'est en Corée. Les jeux de Corée étaient très réussis, donc on croit que ça se passe un peu partout.
C'est des Olympiques, en fait. Des Olympiques. Ah, non,
ça, c'est super, parce qu'on voit le côté spin-off possible et le côté un peu marketing, mais en même temps, c'est très bien réussi.
Ça reste secret.
Voilà, c'est qu'il y a vraiment...
Contrairement d'ailleurs à d'autres... plot d'histoire Battle Royale où souvent c'est le truc le plus médiatisé, c'est Panem et Tirkenses. Et là c'est l'inverse, c'est secret, c'est juste pour 3 milliardaires ou un peu plus que 3, mais et c'est pas du tout le truc diffusé à des milliards de spectateurs.
C'est l'imaginaire des réseaux de snuff movie, des réseaux pédophiles, etc. Donc c'est tout l'imaginaire. Moi, évidemment, c'est l'île de Epstein, c'est quand même assez hallucinant, mais l'île des horreurs là, pédophiles de Epstein et tout ça. Donc, c'est assez singulier parce que c'est clair que là, on a aussi un autre élément du succès de la série, c'est qu'il y a les coordonnées proprement coréennes qui permettent d'expliquer le succès par rapport à la société coréenne, mais il y a aussi l'aspect global, et je pense que ce côté de l'imaginaire du 1% est finalement plus puissant à ce moment-ci, pour notre époque, que l'imaginaire totalitaire de Hunger Games, une Amérique totalement dominée par une sorte de Capitole totalement fascisant, etc.
C'est beaucoup plus économique comme discours. Oui.
Ouais, là, c'est vraiment beaucoup plus le néolibéralisme comme tel, où on peut imaginer que des choses comme ça, bon, c'est quand même invraisemblable que 400 personnes disparaissent chaque année dans plusieurs pays, mais on peut comprendre qu'on est dans les perversions des ultra-riches, où effectivement, on profite de gens qui sont presque déjà à l'extérieur du système, dont les gangsters, donc justement, on ne va jamais trop s'occuper de savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. Et donc, j'ai trouvé que c'était quand même réussi, malgré l'aspect un peu caricatural, mais j'ai trouvé que c'était réussi.
J'ai même l'impression que ça... Oui, il y a tout à fait ça, évidemment, sur précisément ces dominants économiques, les 1%, tout ça. Mais peut-être encore plus universellement, jusqu'où ça va quand il y a des gens qui ont une position de pouvoir sans limite et qui ont un degré d'empathie égal à zéro.
Ils s'ennuient et qui ont besoin en fait de se divertir.
Il paraît il me semble que dans situation de guerre, de prisonniers de guerre, etc., quand il n'y a pas de contrôle, c'est pareil, les gardiens, les officiers qui s'ennuient, ils font faire des jeux où ils disent aux prisonniers de s'en... Quand un humain n'a aucune limite et qu'il a des humains en son pouvoir, voilà, il n'y a plus qu'à laisser imaginer. Je pense, voilà, on parlait de, comme ça par petites touches du succès de la série. Il me semble que ça touche à beaucoup de choses qui sont très universelles, quoi, et qui sont à la fois extrêmes, quoi, très intenses, très frappantes, et qui disent des vérités.
Moi, en refaisant la généalogie avec les libertins sadiens, j'ai retrouvé un épisode donc dans l'histoire de Juliette. Il y en aurait sûrement d'autres, mais dans l'histoire de Juliette, il y a vraiment cet épisode où les libertins vont voir des pauvres s'entretuer pour une sorte de cagnotte. Et ça les excite énormément, ils commencent à baiser dans tous les sens, etc. Bon, c'est sad. Mais le truc hallucinant, c'est qu'on est rendu à une époque où les inégalités sociales ont quelque chose à voir avec la féodalité. C'est quand même hallucinant, parce que chez Sade, c'était l'époque révolutionnaire, et chez Sade, il y avait déjà un aspect de provoque dans la représentation des aristocrates comme des absolus dégénérés, comme des absolus monstres. Il y a tout un débat autour de Sade et de l'intention de l'auteur et de c'était quoi le sens. Mais ce qui était clair, c'est que les personnages de Sade sont des sortes de caricatures du pouvoir féodal et de l'aristocratie à laquelle appartenait Sade lui-même. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est rendu à nouveau dans des différences sociales où justement on retrouve le même fantasme d'un pouvoir secret qui est totalement corrompu, totalement pervers.
Tu connais l'expression de néo-féodaux hein, qu'on utilise aujourd'hui. Tu sais, quand on parle de Facebook, Amazon, Google, moi, je suis d'accord avec toi, on rentre dans un néo-féodalisme où on a de nouveaux seigneurs qui ont des pouvoirs, qui demandent une forme de taxe, qui ont du contrôle sur nos vies. Effectivement. Oui, c'est du néo-féodalisme, on le voit avec ces VIP. Par contre, là où je ferais peut-être une différence, c'est que dans l'idéal médiéval, avant que l'aristocratie devienne absolument décadente sous Louis XIV et compagnie, il y avait quand même, je ne dirais pas que le système marchait à 100%, mais quand les chevaliers s'affrontaient en tournoi sous le regard des seigneurs, il y avait un idéal de gloire, il y avait un idéal de surpassement de soi, tu vois, c'était pas... Non, alors que là, que ce soit dans Squid Game ou ce que tu racontes avec Sade, c'est soit pécunier, soit bassement charnel, tu vois, il n'y a pas cet idéal médiéval authentique.
Oui, oui.
Dieu ou pour mon roi.
Oui, il y a une dégradation de l'idéal aristocratique. Chez
exactement.
Ça,
complètement.
Ça. Bah, du coup, dans l'idéal, là, c'est vraiment des loisirs.
C'est du loisir.
Qui n'ont aucune valeur, qui sont juste du défoulement de bas niveau. Quoi.
Ce qui m'avait marqué, moi, c'était qu'on leur vendait, parce que plusieurs fois, ils disent aux participants, bah, là, on vous donne une chance. Le monde extérieur, il est cruel avec vous. Nous, on va vous donner une chance.
On est juste et égalitaire.
En fait, c'est du foutage de gueule, parce qu'il y a vraiment derrière ça, c'est des VIP qui se masturbent devant des gens qui meurent. Enfin, c'est
Oui, et puis il y a un truc intéressant avec ça aussi, dans la logique de que vous pouvez arrêter quand vous voulez, mais c'est la majorité. Et ça aussi, c'est très pervers parce que ce n'est pas un choix individuel. Parce que je pense que le choix individuel, les gens auraient dit « bon, ben, moi, je me casse ». C'est une grande partie. Mais le fait que ce soit, que ce soit une décision de groupe et qu'une fois que la décision est prise, là, tu ne peux pas partir. Donc, la décision a été prise par la communauté et là, tu vas te prendre une balle dans la gueule. Donc, ce truc-là, ça m'a semblé aussi un truc très particulier comme pervertissement de l'idéal démocratique. Donc,
que j'allais demander, oui.
Ça devient une sorte d'utilisation de la démocratie à des fins totalement perverses, ce qu'on est en train de voir, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans notre société, c'est-à-dire que la démocratie, elle est profondément corrompue, elle est profondément dévoyée de son sens initial, et elle est profondément mise à usage des puissants. Et donc, ce foutage de gueule des organisateurs du jeu, c'est un peu le foutage de gueule qu'il y a en ce moment. C'est un petit peu cette impression-là. Et même, je dirais que les élections qui sont dans le jeu, bon, en grossissant un peu le trait, mais ça ressemble un peu à des élections réelles. C'est-à-dire qu'au fond, on est quand même dans un truc très suicidaire, dans un système très suicidaire. On est dans un système évidemment totalement inégalitaire, etc., etc.
Même à l'intérieur des épreuves. Hein.
Oui.
L'épreuve des biscuits, là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais leur idée d'égalitaire, c'est du pipeau, hein. Ils se moquent des gens. Enfin, choisissez une forme et puis après, bah, voilà, c'est cadeau. Toi, oui. Tu as une étoile et toi, tu as un parapluie.
Bah, et choisissez un numéro et puis finalement, ça va déterminer le numéro de passage sur le pont. Exactement. Et finalement, seuls les derniers à passer ont une chance. Et ça, ils ne savaient pas. Et puis aussi, ils sont extrêmement tricheurs et manipulateurs, les organisateurs, puisqu'à un moment, il faut exprès de ne pas distribuer de nourriture à chaque personne, de mettre moins de portions que de gens, et pour déclencher des tueries.
Oui, ça, c'est l'aspect carrément malthusien de la série. C'est comme une hors épreuve, c'est off. Le off-off.
C'est le off, voilà.
Et là, c'est tout le monde s'entretue. D'ailleurs, c'est le moment vraiment obétien, et ce n'est pas gladiatorial, du coup, parce qu'il n'y a aucun spectacle, c'est la nuit. On voit d'ailleurs très mal. C'est d'ailleurs une belle scène. Tu parlais à un moment donné, Pierre-Olivier, hors onde de Kubrick, et je trouve qu'effectivement, dans la violence dans la série, il y a des choses intéressantes du côté de Kubrick.
Alors, je vais peut-être rebondir juste sur deux, trois petites choses qui m'ont frappé dans la réalisation. Parce que je pense, et encore une fois, on parle du succès, et sans en épuiser la recette, je pense que la forme est extrêmement essentielle dans un succès. C'est-à-dire que ça a quelque chose qui est marquant et simple, suffisamment simple et maîtrisé et esthétique pour être marquant. Je parlais de Kubrick, oui, peut-être pour commencer, il y a des moments qui m'ont évoqué le style de réalisation de Kubrick. Peut-être que ça l'a inspiré. Probable, peut-être même, j'ai envie de dire. Ce n'est pas systématique, bien sûr, parce que Kubrick est un génie, il ne peut pas rentrer dans des formules, mais on trouve souvent chez lui des plans où dans le cadre, ce qui se passe, c'est extrêmement construit de manière géométrique et sur des formes géométriques extrêmement simples. Et souvent, simples du genre symétrie, un côté un peu écrasant, parce que c'est souvent rectangle, carré, voilà, plein cadre, filmé au milieu, et avec, par exemple, un lent travelling qui avance... Et le tout, par exemple, des images qui sont restées vraiment, qui sont maintenant dans l'inconscient collectif, un peu dans Shining, les couloirs de l'hôtel où c'est filmé, la caméra est exactement au milieu et nous, on voit cette figure géométrique du couloir, espèce de carré, de rectangle, qui donne quelque chose, je dirais, presque un sentiment d'objectivité un peu écrasant, un peu. Et en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est pas négociable, c'est le réel et vous pouvez toujours vous tortiller avec vos vies, vos envies, vos égos, vos idées, mais le réel, il est là, il n'attend pas. Et il y a un côté objectif implacable que je trouve qu'on retrouve un peu, même dans la façon de filmer, de temps en temps, où on va retrouver aussi ce côté plein cadre de formes géométriques simples, et pas seulement la récurrence des formes rond, triangle, carré. Parfois, on voit ça vraiment dans les plans. Je pense aussi, il y a l'utilisation du beau Danube bleu, assez récurrente.
Oui.
Tout vers la fin, je crois que c'est l'avant-dernier ou dernier épisode où il n'y a plus que les trois survivants. On leur offre un bon repas,
Ouais. Vigorant,
et c'est une table triangulaire où chacun est placé exactement au milieu de son côté du triangle. Et ensuite, la caméra, il y a un gros plan qui avance lentement, plein cadre, exactement en face d'une des personnes qui mange, à la fois ce côté géométrique implacable et... Aussi, la personne, elle est filmée de face, elle mange calmement et à côté, il y a un garde planté. Donc, c'est complètement oppressant. C'est même presque d'une certaine façon comique si on a un humour noir comme ça, tellement c'est oppressant. Et ça m'a rappelé l'espèce de rire malaisant que j'avais sur une scène dans Orange Mécanique. Le mec qui était le véritable prédateur, le héros d'Orange Mécanique, se retrouve plus en position de proie suite à des aventures et il se retrouve à fuir et à se réfugier dans une maison et il ne sait pas qu'il est tombé sur la maison d'une de ses anciennes victimes. Mais cette fois, il est au pouvoir de sa victime et la victime lui sert un très bon repas. Et la façon dont c'est filmé, dont le type se décompose tout en essayant de garder l'air calme et normal en mangeant, ça m'a assez bien rappelé. Il fait semblant de s'intéresser au vin parce qu'il essaye de meubler, parce qu'il y a un silence de mort. Et il fait « Oh, Saint-Estèphe, Médoc !» Et il y a un malaise qui grandit comme ça, il y a une tension. Et voilà, il y a des petits moments comme ça qui m'ont rappelé le côté Kubrick.
Quand ils prennent le détail révélateur, quand ils prennent les couteaux à la fin, c'est fascinant.
Il lève juste le couteau. Ouais, on ne l'avait pas remarqué parce qu'il était avec les autres couverts avant. C'était logique pour un repas. Et ils enlèvent tout, ils laissent un couteau à chacun. Oui, c'est très bon comme mise en scène. Il y a au niveau des couleurs, il y a un vrai travail sur la colorimétrie de chaque plan. Mais vraiment, j'ai fait le test en prenant un épisode au hasard et je fais pause, arrêt sur image, à n'importe quel moment au hasard, je tombe sur un plan qui est très composé au niveau des couleurs et c'est suffisamment discret pour qu'on ne voit pas genre grosse adaptation de comic book avec des couleurs pétantes. Non, il faut y penser, il faut se le dire, mais j'ai l'impression que le thème central, c'est des couleurs un peu de l'enfance, des couleurs vives, primaires, mais elles ne sont pas souvent là. C'est une déclinaison. C'est souvent des couleurs qui sont un petit peu rendues plus atténuées, c'est-à-dire des rouges qui vont être un peu rouge-gris ou des gris-verts, etc. Mais finalement, très harmonieux. Et puis de temps en temps, on ressort une couleur franche, comme ça, un rouge vif, les roses des combinaisons. Mais c'est extrêmement composé d'un point de vue couleur. Et vraiment un arrêt sur image, pareil. Et pas seulement dans le décor contrôlé des jeux. Quand ils sont en ville, où c'est plus le chaos, le bordel, etc., la pauvreté. Mais en fait, comme par hasard, le doudou qu'une fille va avoir dans ses cheveux va répondre au jaune qu'il y a sur une tenture en plastique. Et finalement, chaque couleur est à sa place. Et je pense que ça, c'est des choses... C'est, c'est, ça joue un peu, on n'en est pas conscient forcément quand on regarde, mais il y a une espèce de maîtrise et de clarté, de simplicité dans la forme qui nous frappe, un peu comme l'efficacité d'un logo, d'une marque, ou d'un, voilà, il y a une vis de récurrence de trois formes géométriques élémentaires, rond, triangle, carré. J'ai un petit peu cherché, il paraît que c'est des formes dans le bouddhisme qui ont une importance. Il y a un tableau fait par un moine bouddhiste en 1800 qui est un rond, un triangle et un carré que beaucoup de gens appellent l'univers, même si c'est au départ, c'est les formes symbolisent le jeu du calamar et ces motifs, ces trois figures reviennent. Enfin, voilà, c'est pour dire il y a une esthétique très maîtrisée et basée sur des éléments très universels et très simples.
Oui, et puis il faut remarquer que c'est une série d'auteurs, parce que c'est vraiment lui le réalisateur de tous les épisodes, et il y a une vraie unité de ton et de proposition. Il voulait que ce soit un film, et en fait, il a réussi, je trouve, à faire un long film. C'est quelque chose qui fait qu'on ne quitte jamais le regard de la caméra particulier du réalisateur. Et ça, je trouve que c'est aussi une force dans le Et oui. C'est pour ça que ça devient de plus en plus intéressant, je trouve aussi.
Et alors, le réel, là, je reviens beaucoup là-dessus, c'est vraiment un thème, je trouve, j'ai l'impression, voilà, dans son parti pris, il nous raconte les choses comme si c'était le réel, c'est-à-dire que bah, si quelqu'un tombe d'un pont qui est à 20 mètres, c'est pas beau, parce qu'on parle du gore dans la série. J'ai l'impression que c'est juste qu'on ne fuit pas ce qui se passe, on assume ce qu'on raconte. Bah forcément, un corps d'un humain qui s'est écrasé de cette hauteur-là, ça fait ça. Mais c'est tout. La caméra, elle ne va pas le fuir, mais elle ne va pas non plus s'arrêter dessus. Ouais. Elle ne va pas se complaire à nous montrer à quel point c'est horrible et machin. Ce n'est pas des gros effets grand guignolesques, mais c'est hyper malaisant. C'est effrayant, en fait, je trouve. Ça nous ramène même à une condition comme ça, matérielle, de putain. La personne était en train de parler, de ressentir les émotions il y a 2 secondes, maintenant c'est un tas de viande. Et c'est tout, mais la caméra ne s'attarde pas, c'est juste, ben voilà la réalité en face. Et ça, ce côté, du coup, ça nous fait vivre, à part le côté peut-être plus ou moins sadien de ah, on voit des gens mourir, c'est excitant, il y a sûrement beaucoup de spectateurs qui sont pris par ça, peut-être une partie de chacun de nous même, mais je trouve qu'au-delà de ça, ça nous immerge et ça nous amène presque à vivre une expérience extrême qui, quelque part, c'est un apprentissage aussi parce qu'on a la chance de ne pas en subir les conséquences, mais on a soif peut-être instinctivement de vivre des expériences pour apprendre. Et je trouve qu'en imagination, cette série nous permet de vivre des situations
qui
sont extrêmement fortes.
Oui, il y a un côté presque initiatique. C'est une contre-initiation de la part de O'Hillman, mais pour le spectateur, il y a un potentiel d'initiation tout à fait et très associé aussi avec cet art. En général, c'est vrai que c'est une des choses, on va peut-être rebondir là-dessus. Régis, tu voulais parler de la relation avec le côté sud-coréen en général, et c'est aussi une des marques de ces fictions. Elles ont comme une sorte de synthèse de la tradition du cinéma japonais, mais aussi de la tradition du cinéma européen et du cinéma américain. Il y a vraiment un aspect synthèse dans le cinéma sud-coréen qui est frappant. Et on sent que oui, ils sont nourris de Kubrick, ils sont nourris de plein de choses. Et
puis, il y a un art du récit feuilletonesque qui fait qu'on accroche, il y a vraiment un côté, on va emmener notre spectateur. Il y a vraiment aussi ce côté narratif très... on n'hésite pas à être... c'est populaire, c'est jouissif, quoi. Il y a les rebondissements, le suspense, on a tout ça. Mais il y a ce côté aussi très... c'est-à-dire que si on accepte de jouer le jeu, la suspension d'incrédulité, si on consent, ça peut aller loin. Mmh. Voilà. Et je parle peut-être aussi comme ça parce que c'est mon habitude à force de, voilà, en tant qu'acteur, bah, de faire travailler l'imaginaire et de se projeter dans une situation imaginaire en essayant de la rendre la plus réelle possible, de la vivre le plus possible comme si c'était réel. Et je trouve que la série, la réalisation de cette série et le jeu des acteurs nous y aident vraiment si on le désire. Alors qu'il y a, je le dis, par rapport aussi à d'autres œuvres où on voit tout de suite que c'est fabriqué, quoi. On reconnaît, on reste très extérieur et même quand on a envie de s'y croire, on voit tellement les ficelles. Et là, je trouve que ça nous permet, et c'est pas courant, ça nous permet d'aller assez loin. Si tu compares encore une fois au roman de Stephen King, où aussi, pareil, quand on joue le jeu, quand on rentre dans le roman, qu'on accepte les prémices fantastiques, mais que le reste qui en découle, on peut vraiment vivre l'expérience. Il y a pas grand-chose qui fait obstacle. Il n'y a pas un moment où on se dit, oui, mais ça, c'est un mensonge, mais ça, c'est artificiel. Peut-être des petits moments, comme tu décris, Régis Pierre, la fin, peut-être, quand il refuse de prendre l'avion, et etc. Mais globalement, je trouve que...
Alors, je ne sais pas parce que, si c'est parce qu'on reçoit surtout les grands succès, donc il y a un effet aussi de sélection qui se fait et on est donc ébloui par le... par la qualité des grandes œuvres sud-coréennes, ou c'est parce qu'il y a vraiment, ils ont appris de plusieurs sources et qu'ils ont créé une bonne synthèse. Un côté d'ailleurs très Occident et Orient qui est assez fascinant aussi dans le côté sud-coréen.
Bah, c'est dans leur réalisation, c'est certain, on sent qu'ils sont inspirés par le... De toute façon, la situation du pays elle-même est intéressante. C'est un pays qui a été très influencé par les États-Unis du fait de l'histoire, et puis c'est aussi un pays qui est ancré profondément dans ses traditions, comme tous les pays asiatiques. Donc, du point de vue de la réalisation, on sent que Pierre-Olivier nous a bien expliqué que c'était inspiré par le cinéma américain, notamment Kubrick, et en même temps, ne serait-ce que le jeu des acteurs, c'est extrêmement coréen, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cinéma chinois, qui grandit de plus en plus, là, et puis le cinéma japonais. J'ai plein d'amis qui ont découvert le cinéma coréen avec Squid Game, là, et puis ils me disaient, mais au début, j'avais du mal à rentrer dans le jeu des acteurs, parce que c'est tellement loin de ce qu'on connaît, on a l'impression que c'est exagéré. Et en fait, pour avoir lu quelques petites choses là-dessus, c'est que le cinéma coréen, comme le japonais, est extrêmement basé sur le théâtre. Et le théâtre traditionnel asiatique, c'est un théâtre de masques, c'est un théâtre vraiment... C'est un théâtre qui est chanté aussi dans le traditionnel, et c'est un théâtre exagéré, justement, les émotions sont exagérées. Et on retrouve ça dans le cinéma. Donc, il y a un mélange qui est caractéristique, et ce mélange se retrouve aussi dans le genre, c'est-à-dire que ce sont des maîtres pour passer du tragique au comique, très rapidement. Et ça, on le voit dans Squid Game aussi. Et puis, il y a une horreur qui se passe juste après, et les Sud-Coréens sont très forts pour ça, notamment dans les thrillers. Vous allez avoir un tueur en série qui découpe quelqu'un, vous allez être horrifié, puis après, vous allez avoir une blague d'un policier. Vous allez avoir ce mélange de grotesque, de tragicomique, qui sont très, très forts pour ça, je trouve.
Oui, qui est très shakespearien d'ailleurs.
Et oui, les premières pièces occidentales qui ont été très célèbres en Corée du Sud, pour la petite histoire, c'est les pièces de Shakespeare, justement. C'est intéressant de voir que ça les a marquées à ce point-là.
Ouais. Oui, parce qu'il y a des aspects shakespeariens, je trouve, aussi dans la. Oui. Dans le personnage de Ho Il-man, il pourrait être une sorte de personne, c'est une sorte de Prospero pervers. Shakespeare est toujours, quand on aime Shakespeare, on le retrouve à toutes les.
Puis la putain d'intensité des situations, quoi, entre la vie et la mort, les enjeux humains, la trahison, l'amour, le. Qu'est-ce que va faire l'autre dans une seconde? Mais on retrouve, oui.
Non, absolument. Ouais. Et la référence au manga est intéressante parce que l'impression que j'ai eue par moment, c'est que c'était une sorte aussi de manga inexistant. Justement, l'aspect du policier infiltré, tout ça, ça nous évoque beaucoup des ambiances de manga.
Le créateur, il dit qu'il est fan d'anime et de manga.
Oui,
et ça m'étonne. Il dit pas. Que ça l'a beaucoup nourri.
Oui, ça m'étonne absolument pas parce que c'est la richesse, l'aspect feuilletonnant riche du manga qui est incroyable, qui est vraiment. Son aspect le plus distinctif, non,
ouais. De pouvoir. Et puis aussi, ce que dit Régis, très important, de pouvoir, mais comme la vie réelle, finalement, sauter, ça ne s'enferme jamais dans un genre, c'est ça, de pouvoir éclater de rire et l'instant d'après, on est glacé. Et...
Ne pas appuyer les effets, ce qui est une chose très intéressante, on l'a déjà évoqué, mais c'est quelque chose qui, malheureusement, est un travers typique du cinéma hollywoodien. C'est là, on va vous faire peur, là, on va vous a bien fait rire, là, on vous a fait machin.
Et vous êtes déjà prévenu par la musique depuis 4 secondes.
Exact. Alors qu'effectivement, c'est carrément une autre esthétique. Le traitement de l'horreur sociale, donc, aussi, est assez différent. Parce que, et d'ailleurs, au niveau des genres, c'est très intéressant parce qu'on évoquait un peu les référents comme Battle Royale, tout ça. Mais finalement, Squid Game, c'est vraiment une drôle d'oiseau dans le sens que ce n'est pas un truc de science-fiction dystopique, ce n'est pas un jeu mortel du futur comme on a eu tant. Ce n'est pas non plus un simple récit de survival horror ou de torture porn, comme on pourrait imaginer, parce qu'il y en a eu plusieurs, du type hostel, du type escape room, etc., enfin, où on voit des riches dégénérés tuer des gens ou des choses comme ça. Donc, on n'est pas non plus dans le registre de l'horreur. On est dans quelque chose qui commence un peu presque comme du mélodrame ou du film social. Et puis, et on passe par paliers. Il y a même un moment un peu James Bond, comme on l'a évoqué, la façon dont ça fonctionne avec cette armée très, très inquiétante et tout ça. Et en fait, on passe de l'un à l'autre, justement un peu comme dans les mangas de Tezuka, les grands des années 70 ou des choses comme ça, où on brasse les genres, on prend des éléments où on les veut et on fait progresser l'action et on l'emmène là où on ne pensait pas qu'elle irait. Et ça aussi, je trouve qu'il y a un côté très, 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 très intéressant. Il y avait un aspect aussi de satire sociale par rapport à la Corée. Régis, tu nous parlais aussi de ça un peu.
On parlait de Parasite parce que c'est vrai qu'il avait eu énormément de succès. Et Squid Game nous fait penser à des thématiques qui sont trouvées dans Parasite, mais c'est des thématiques qui traversent tout le cinéma sud-coréen. Je prends un film excellent qui est un peu passé sous les radars, qui s'appelle Burning sur Netflix. Je vous conseille vraiment de le regarder. En fait, on retrouve toujours les mêmes thématiques dans le cinéma sud-coréen contemporain. C'est des thématiques sur l'ultra-capitalisme, qui à bien des égards, on peut le percevoir comme pire qu'aux États-Unis, pourtant il faut le faire, parce que en Corée du Sud, il y a encore ce poids de la tradition qu'il y a moins aux États-Unis et que face à ce poids de la tradition, s'entrechoquent des valeurs marchandes. Et en fait, c'est encore plus violent, je trouve, quand on est dans ce type de cinéma et de cette société-là. Et tu l'as dit toi-même, donc il y a toujours la thématique des 1%, donc ultra-capitaliste, je l'ai dit. Il y a la thématique des parents, la thématique du poids des anciens, des parents qui sont abandonnés. Donc là, on l'a dans Squid Game aussi. On a l'idée des parents qui échouent, donc très souvent des parents divorcés dans les fictions sud-coréennes qui ne prennent pas soin de leurs enfants, des enfants abandonnés. On a le thème de l'ultra-compétition, que ce soit dans l'éducation, que ce soit sur le marché du travail. Dans Squid Game, c'est la meilleure représentation possible. Et puis surtout, on a le thème de l'ordre et de la morale et de ce qu'il faut faire dans une société traditionnelle asiatique. Et je voulais revenir sur ce qui est, selon moi, la clé de cette idée sociale dans Squid Game, c'est la toute première épreuve. Le 1, 2, 3 soleil, moi, je le lis comme ça. C'est vraiment ceux qui bougent, ceux qui ne sont pas figés, ceux qui ne sont pas dans la tradition et dans l'ordre coréen, vous êtes abattus. Donc, on ne sort pas de la tradition dans les pays asiatiques. C'est le poids de cette tradition qui compte. Si vous ne bougez pas et vous restez dans les carcans de ce qu'on vous enseigne, vous réussirez dans le système asiatique. Sinon, vous serez abattu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la lecture que
j'ai. Ah oui, intéressant. Et même, 1, 2, 3 soleil, mais vous pouvez bouger quand le système détourne le regard.
Exactement. On peut aller encore plus loin comme ça. Ouais.
En tout cas, c'est cohérent. Je vais faire un retour en arrière, mais parce que j'y pense, j'ai pas pensé sur le moment. Mais je crois effectivement, à mon avis, oui, à ta question du tout début, que le succès est en partie à la vague des Battle Royale, y compris en jeu, avec un public hyper jeune. À la fois, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de cas dans des écoles, effectivement, d'enfants qui se mettent à reproduire, pas autant de violence heureusement, mais quand même des jeux du Squid Game où les enfants qui perdent se font peut-être pas abattre, mais tabasser. Ça a alerté évidemment les parents, les directrices, etc. Et mon fils cadet de 13 ans m'a confirmé que des enfants beaucoup plus jeunes que lui ont tous vu, absolument tous, même dans les écoles primaires, ils ont tous maté la série. Donc c'est
à la fois une série sur l'ultra-capitalisme et sur la compétition, et une série sur le fait qu'en tant qu'être humain, est-ce que quelque part on ne réclame pas cet ultra-capitalisme et cette compétition? Et la servitude, il est terrifiant, mais c'est vrai, ils sont
attirés. Comme les VIP, là, du coup.
C'est la servitude volontaire de la Boétie, c'est-à-dire qu'en fait, le système marche parce qu'on accepte qu'il marche et qu'on y contribue. Et il y a d'ailleurs aussi un aspect très coréen, j'avais lu sur la crise de la dette, où effectivement, apparemment, donc, les Coréens sont extrêmement endettés et qu'il se trouve qu'il y en a beaucoup qui partent un peu dans les mains de ces loan sharks, donc de ces sortes de petits gangsters malfrats des dettes et qui ensuite récoltent les dettes de manière violente. Donc, que c'est un problème de société. Et là aussi, je voyais un symptôme intéressant du succès à la fois local et global, donc glocal, comme on dit souvent dans le jargon contemporain, mais c'est très glocaliste dans le sens qu'il y a une lecture très sud-coréenne pour beaucoup d'autres aspects qui, moi, m'échappent sans doute pour plein d'aspects culturels, mais il y a aussi donc le succès de la question des dettes et tout ça qui parle à la société coréenne, mais aussi le fait que l'endettement n'est même plus seulement un enjeu individuel, mais c'est un enjeu de nos sociétés. Et il y a le célèbre documentaire grec sur la deptocratie, donc la dettocratie, et comment le néolibéralisme est en train de jouer avec la dette pour mettre à genoux les États face au marché et face aux multinationales, etc. Et donc, je trouve que là, on a un bon exemple de quelque chose qui résonne d'une certaine manière pour la société d'origine de la série et qui, en même temps, résonne globalement par rapport à une situation que l'on vit ou que l'on reconnaît, etc. Et le fait que l'horreur soit d'abord économique et que ces gens-là soient là pour des raisons économiques, c'est aussi assez intéressant, contrairement à d'autres types d'horreurs où les gens se retrouvent confrontés à des psychopathes ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment l'horreur sociale, économique, et ensuite, l'horreur économique continue puisque c'est un système monté par les VIP pour satisfaire à leur perversion, puis aussi leur pari. On imagine bien qu'il y en a qui font beaucoup d'argent là-dessus, et puis ceux qui organisent, qui font de l'argent en organisant les jeux. Donc, en fait, on est vraiment dans un cercle, non pas vertueux, mais au contraire, complètement vicieux, d'une société profondément tarée, en fait.
Plonge dans les cercles de l'enfer, hein, toujours plus profondément. Ouais.
Et cette horreur sociale dont tu parles, je trouve que la série nous la fait ressentir, et pas seulement penser.
Oui.
Parce que cette oppression, cette tension extrême, j'essaye de découper le motif de mon petit biscuit sans faire d'erreur. Sinon, le droit à l'erreur, mais là, poussé à un degré tel que c'en est comique, mais c'est horrible comique comme ça. Et genre, ça rebondit aussi sur ce que tu dis, Régis, sur 1, 2, 3, soleil, pas bouger. Sinon, on tabat. Et faire tromper dans le petit biscuit. Ah bah, on tabat. Et même, j'ai envie, bon là, évidemment, avec toute la... On va relativiser énormément ma comparaison, mais je trouve que symboliquement, peut-être même au niveau de la sensation, même si là, elle est poussée à l'extrême, bien sûr, c'est une catharsis aussi, mais l'oppression comme ça, sociale, c'est des sentiments qu'on peut ressentir en moins intense, peut-être, mais cette tension de bien faire, sinon, on est abattu symboliquement, il vaut mieux être abattu symboliquement, à mon avis, mais voilà, ça me fait un souvenir, en tant que papa. Oui, quand mon fils est né, à un moment, dans une école, on l'a changé d'école depuis, hein, mais quand il avait, je crois, 3 ans, oui, 3 ans, je pense, à peu près 3 ans, bah, c'était bientôt la Saint-Nicolas. En Belgique, on fête début décembre la Saint-Nicolas avant Noël. Du coup, ils devaient tous dessiner un Saint-Nicolas entre les cours, quoi, à l'école maternelle ou début primaire, je ne sais plus. Et ils devaient tous dessiner leur Saint-Nicolas. Et alors, si je me mets à leur place de petits enfants de 3 ans, ce qu'ils devaient ressentir à essayer de bien faire leur dessin avec les surveillants et les surveillantes à côté qui devaient leur évoquer pas loin de ce qu'on ressent en voyant les types masqués en rose foncé. Parce que figurez-vous que mon fils a dessiné son Saint-Nicolas en journée. Il ne s'est pas fait abattre, mais presque.
Ah ouais, ils l'ont.
Saint-Nicolas, c'est pas en jaune et tu sais très bien, tu as fait exprès de le faire jaune, c'est en rouge. Mais pour un enfant de 3 ans, et imaginez la taille comparative, c'est des géants hein, pour eux, les adultes. C'est comme si on se faisait agresser par un troll de 4,50 m. Il était en train de dessiner le plus soigneusement. J'ai ressenti ça par empathie quand je voyais les gars essayer de ne pas se tromper dans le découpage de leur petit gâteau. Voilà, c'est pour dire ça symbolise de manière assez frappante.
Oui. En fait, l'utilisation de l'univers de l'enfance est très intéressant dans la série. Il y a bien sûr la perversion de l'innocence de l'enfance par l'horreur, mais il y a aussi le fait que nous, en tant que spectateurs, on est restitués à des peurs enfantines parce qu'il y a des enjeux enfantins. Ça, c'en est un, la surveillance, que par ailleurs, on peut vivre dans les entreprises. Il y a le côté de l'horreur managériale. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir assez hallucinant sur les camps et le management. Et donc, évidemment, sans faire de comparaison facile, etc. Mais je pense que c'est un livre qui adresse vraiment les origines du management et un peu l'horreur implicite du management, etc. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est que, par exemple, quand il faut choisir son meilleur ami, on revit tous des situations. Donc, il y a un côté d'être confronté à un passé qu'on a encore en nous-mêmes. Donc, toutes ces mémoires.
Et il y a pire que le meilleur ami, il y a l'équipe. Les équipes de football où on était nuls. Enfin, moi, j'étais nul au foot, donc personne ne me choisissait. Donc, tu as raison, ça renvoie à des traumatismes d'enfance.
Donc, ça renvoie à plein de trucs. Et la série joue beaucoup avec ça. Et c'est l'aspect universel.
Les jeux d'enfants.
Oui, exact. Et c'est l'aspect universel. Alors, évidemment, pour les Coréens, encore une fois, c'est des vrais jeux de leur enfance. Donc, il y a un vrai effet qui est figuré dans la série elle-même, puisque ça commence par un flashback sur le jeu et que ça se finit sur le jeu, les épreuves elles-mêmes, etc. etc. Mais je pense que tout le monde a compris l'aspect universel de ces enjeux.
Pourquoi ces jeux d'enfance, cet univers de l'enfance qui est reconstitué, mais dans ce contexte? Enfin, pourquoi au plus, ça vous fait quoi enfin,
Mais à mon avis, moi, c'est lié au fait que dans la société sud-coréenne, le créateur a voulu mettre l'accent sur le fait que c'est une société qui est cruelle pour les enfants dès les premiers stades de leur enfance. C'est très connu, il y a des tonnes de documentaires sur le système éducatif coréen qui est une catastrophe avec des enfants qui ont quasiment tous des tuteurs pour réussir, qui finissent leurs devoirs jusqu'à 23 heures le soir. C'est un système horriblement compétitif. Et en fait, les jeux ne sont qu'une métaphore de ça. Ce sont des enfants qui reproduisent dans leurs activités ludiques ce qu'ils ont à l'école. Ouais. Mais je précise, parce que sinon je vais oublier, dans la liste des satires sociales propres à la Corée du Sud, j'ai oublié de mentionner la relation homme-femme. On n'en a pas du tout parlé, mais c'est très courant dans le cinéma coréen de représenter le sexisme classique des sociétés asiatiques, en particulier de la société coréenne, avec le personnage, vous savez, de cette femme extravagante là, qui
essaie de s'élever. Elle est intéressante,
je trouve. Et il l'emporte dans sa chute. Et aussi le fait que personne ne choisit des femmes dans toutes les épreuves de force, en particulier tir à la corde. Donc il y a toute une notion sur le sexisme aussi dans cette société coréenne. En fait, c'est dingue comme cette série, elle traite de
très intéressante de cette femme comme personnage.
Oui. Très shakespearien d'ailleurs aussi. Et il y a le jeu à l'intérieur de la série.
Elle se plante socialement.
Il y a le côté quand les commentateurs, les VIPs disent « Hell hath no fury like a woman scorned » et que effectivement faussement attribué à Shakespeare par moment et qu'un des VIP remarque avec érudition que c'est William Congreve et pas Shakespeare. Mais ce personnage, cette sorte de suicide par dépit, est aussi très, très, très intéressant. Mm-hmm. Et oui, puis le personnage, comme on disait, le personnage qui aurait pu être le pilier d'un versant héroïque, qui aurait pu être une sorte de Katniss, elle est sacrifiée de manière d'ailleurs assez traumatisante aussi, alors que c'est elle la seule qui a agi, puisque les autres ont été généralement assez passivement par rapport aux règles, et que c'est elle qui ne s'est pas endormie dans la voiture, c'est elle qui a emmené le couteau, c'est elle qui va dans les conduits, un peu comme dans Alien, quelque part, il y a un petit côté replay dans le moment où elle va dans les tréfonds de la bête et qu'elle commence à bouger à l'intérieur de l'univers et l'explorer. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer comme l'agentivité de la série et le tournant héroïque. Et finalement, c'est coupé court aussi de manière très, très sanglante. Et
puis, elles sont toujours rabaissées au niveau des épreuves de force, alors que comme tu le dis, elles montrent leur valeur tout au long de la série à travers leur courage, mais qui n'est jamais pris en compte, en fait, parce que toutes les épreuves ont l'air de... En tout cas, les épreuves où elles se font rejeter tournent autour de la force. Mm. Et c'est peut-être aussi une métaphore d'un système coréen qui n'est pas bâti pour les femmes. Hein, où vraiment, elles ont moins de chances que les hommes dans la réussite.
Mm. Oui, puis il y a la question de l'âge, tu l'as évoqué, les aînés, qui est un problème à la fois coréen et un problème de beaucoup de nos sociétés. Donc, ce côté très pathétique de ce personnage. Et même, au fond, en sachant que c'est lui qui orchestre le... Quand tu parles des retours en enfance, c'est aussi lui le retour en enfance et aussi il veut rejouer ses jeux de son enfance. Et là, quelque part, on ne sait pas si c'est toujours les jeux d'enfants dans ce système de jeux ou si chaque pays décide à quoi il joue. Donc, on ne sait pas si l'enfance, c'est comme le choix de Oh Il-nam pour... pour cet événement particulier où lui il est en train de rejouer son enfance aussi.
Oui, ça il le dit, c'est une de ses motivations. Oui. Mais est-ce que nous, spectateurs, qu'est-ce que l'impact que ça a, je peux dire, sur nous?
Oui, tout à fait. Non, sur nous, oui, je pense que ça nous renvoie tout à fait à cette erreur-là. Je pense qu'il y a un côté intéressant aussi, effectivement, dans le côté anonyme de ces personnages-là qui sont radicalement différenciés. Donc, il y a un côté un peu concentrationnaire. Il y a vraiment, d'un côté, les exécutants et de l'autre, les participants. Et on ne peut pas passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, chez Sade aussi, on ne passe pas de bourreau à victime. C'est vraiment comme des catégories totalement étanches, ce qui est partie du cru. Ça fait aussi qu'on se posait beaucoup de questions, les fans, sur qui sont ces gens-là, pourquoi ils le font, est-ce qu'ils le font pour l'argent, est-ce que c'est des gens qui ont déjà participé au jeu.
Oui. C'est assez... Je trouve qu'une des forces de la série, c'est de laisser du mystère.
Oui, exact.
C'est un côté kafkaïen, comme ça, c'est plus oppressant, ça fait plus peur à la limite de ne pas tout piger.
Oui, absolument.
Le thème de l'enfance est récupéré par les VIP qui sont en fait des grands enfants. Donc tu vois, le fait que ce soit des épreuves d'enfants, toute la thématique de l'enfance traverse une série où en fait on nous rappelle sans cesse qu'on est dans un monde d'enfants avec des gens qui se font passer pour des adultes, mais en fait on est tous des gamins en recherche d'adrénaline, de choses ludiques, et le vieillard, oui, c'est ce symbole-là aussi. Et qu'en fait, je rebondis sur ce qu'Antonio disait plus tôt, comme des enfants, on pourrait très bien décider que tout ça c'est n'importe quoi et décider qu'on arrête, puisque c'est nos propres règles en fait. Toute la société repose sur des règles et on pourrait tous se coaliser et dire bon, bah, cette fois on change de jeu, voilà, on change de règles, on fait autre chose.
Et si d'ailleurs on leur a proposé, ils ont voté. Et
effectivement, ils le font une fois.
Oui. Ils arrêtent, mais ils recommencent. Mmh. Et mais aussi, mais ça. C'est peut-être parallèle, hein, c'est un peu autre chose, mais c'est ça qui est beau, c'est la polysémie quoi, d'une œuvre. C'est ce que ça m'a fait un petit peu, de revoir de voir tous ces jeux d'enfance. C'est un contraste choquant aussi. On nous remet en plein l'univers de l'enfance, sauf que maintenant, les gars, vous êtes adultes. Mmh. Portez les enjeux, vous êtes plus protégés. Bon, dans l'univers d'enfance, on ne cachait pas sa violence dans le pré-générique du premier épisode. On voit que le Squid Game, même entre enfants, c'est quand même assez musclé, quoi. Mais quand même, enfant, bon, sauf dans des situations vraiment désespérées, mais la plupart du temps, enfant, il y a quand même les adultes prennent en charge tout le poids, encore une fois, du réel. Et là, on nous télescope un peu le monde de notre enfance où au moins on était dispensé de ça. Et là, on vous remet là-dedans. Mais vous savez que vous jouez entre la vie et la mort, et la trahison, et des trucs impossibles à porter. Moi, je trouve que ça nous renvoie à un contraste assez violent. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Il y a un choc un peu par rapport à la... On aurait envie justement de pouvoir se réfugier dans l'enfance quand on vit ça, quoi. Ouais.
Mais justement, je pense que le terme de perversion au sens étymologique, c'est exactement ça. C'est qu'il y a une perversion de l'enfance dans la série, et que le jeu d'enfant est complètement dénaturé par le fait que l'aspect de la psyché adulte embarque, et que du coup ça devient totalement kafkaïen, évidemment, de devoir faire des biscuits avec des parapluies ou des trucs comme ça, où on se fait buter. Donc c'est vrai que, et ça c'est un côté très fascinant de la série, c'est que par moments, en tant que spectateur, on se dit mais c'est complètement fou ce truc. C'est-à-dire que ça passe comme quelque chose que tout le monde accepte à l'intérieur de la diégèse, mais en même temps, à chaque fois, c'est une profonde absurdité. Ça rapproche un peu de quelque chose d'un peu dystopique.
Et je trouve que c'est à la fois un mélange de terreur oppressante, mystérieuse, et de rire, si on a un humour très noir, qui sont très Kafka.
Ouais, oui, oui, oui.
Ces figures masquées qui vont t'abattre sur le champ si tu te trompes dans ton petit biscuit. Quelque part, c'est très drôle aussi. Enfin, c'est très drôle, tellement c'est dingue, tellement c'est absurde, et tellement c'est horrible.
Ouais. Et puis, il y avait et dans leur masque, le fait que ce soit des touches de PlayStation, sauf le X, était assez intéressant aussi, parce que justement, le X, c'est leur fonction, c'est la fonction élimination. Donc, là aussi, on ne sait pas, bon, est-ce que c'est poussé jusque-là, les significations, mais on sent que c'est une œuvre aussi qui a été chérie, ça lui a pris plusieurs années. Il avait commencé en 2008, donc en même temps que la grande crise, qui pour moi est très significatif, puis en même temps, avant bien d'autres de ces fictions qui ont eu du succès. Et c'est pour ça que des fois on dit ah, ça ressemble à tel truc, et lui il dit non, mais moi j'avais déjà écrit le scénario en 2008. Et en 2008, c'était justement jugé trop violent, trop invraisemblable, et c'est peut-être inquiétant de savoir qu'en 2021, la plus vue au monde, c'est de dire qu'on est passé d'un truc, on dit non, mais ça c'est too much, c'est vraiment trop tordu, tout ça, à ce que tout le monde adore ça, dont les enfants dans les écoles. Donc,
les enfants, oui, en bas âge.
Ça c'est hallucinant. Mais bon, je pense qu'on va devoir arrêter là. Merci à tous et toutes celles et ceux qui nous avaient écoutés. J'espère que ça vous a ouvert des nouvelles perspectives, ou ça vous a confirmé dans certaines de vos hypothèses et ouvert d'autres possibilités. Et on vous retrouve bientôt pour une autre émission de Pop en Stock. Yeah.